La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Et au menu de notre club cet après-midi, un roman sur l'étoile russe, Youri Gagarine, un guide des curiosités géologiques de France et puis un livre jeunesse sur les momies. Et je vous présente mes invités dans un instant auxquels vous pourrez poser toutes vos questions. Catherine de Coppet, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la dispersion hors d'Afrique de nos ancêtres Homo sapiens.
Un sujet qui revient sur le devant de la scène avec la découverte d'un os de doigt fossilisé dans la péninsule arabique, vieux de 90 000 ans. On en parle dans un instant avec le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin.
Et Anne-Cécile Perrin est aux commandes de ce club qui a été préparé aujourd'hui par Anna Massardier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Youri Gagarine, la géologie de la France et des momies dans un instant avec mes invités que je salue, Anne-Marie Revol, François Michel et Fleur Dauget. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue Anne-Marie Revol, vous êtes journaliste à France 2 et donc vous publiez L'étoile russe chez Jean-Claude Lattès. C'est un roman consacré au cosmonaute Youri Gagarine, premier homme à s'être rendu dans l'espace. Et vous avez choisi de faire parler des personnages à la fois réels et de fiction pour nous raconter toute sa vie. Hein.
Effectivement, j'ai eu envie de donner une voix à Gagarine, mais pas la sienne, celle de ceux qui l'ont côtoyé ou que j'ai imaginé. Donc parmi les gens qui l'ont côtoyé, qui ont réellement existé, que je mets en scène, il y a par exemple Korolev, l'ingénieur qui a créé la fusée. Il y a évidemment sa femme, il y a évidemment sa mère. Et puis j'ai eu envie d'inventer des personnages qui allaient nous raconter Gagarine au plus près de la réalité historique de Gagarine, parce que j'ai vraiment travaillé le personnage, assez sourcé. Et donc parmi ces personnages que j'ai inventé par exemple une maîtresse, qui est la quintessence de toutes ces maîtresses, parce que derrière l'homme absolument parfait, l'homme idéal que les Soviétiques avaient façonné, il y avait un homme humain avec un cœur qui avait la main baladeuse et qui était vraiment un être à part.
Il y a d'autres personnages d'ailleurs qui esquintent un petit peu cette image parfaite de Youri Gagarine. On en parlera avec vous. François Michel, vous êtes géologue et vous publiez ce guide des curiosités géologiques de France aux éditions Belin. C'est à mettre dans son sac à dos avant de partir en vacances cet été. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le sol français regorge de richesses de toutes parts, mais qui raconte aussi l'histoire de la Terre d'une certaine manière quand même.
La fabuleuse histoire de la Terre, et puis là, dans ce bouquin, j'ai sélectionné 200 sites, mais je pense qu'il y en a 1000 au moins qui valent le coup et le déplacement, c'est vrai. Raconter l'histoire de la Terre, mais aussi l'histoire de la France, qui est une histoire très particulière, parce qu'on est coincé au milieu de beaucoup, beaucoup d'événements entre l'Afrique, l'Europe et le départ des Amériques, il y a de ça une 150 millions d'années environ. Et donc tout ça a déchiré, bousculé, et les roches de la France racontent tout cela.
On va se balader avec vous dans un instant. Fleur Dauget, vous êtes écrivaine et éthologue, et vous publiez « Qui a peur des momies ?». Alors attention, c'est un livre jeunesse chez Actes Sud Junior. Amusant quand même de proposer un album sur ces pratiques funéraires qui concernent les hommes, comme les animaux d'ailleurs.
Oui, c'est un livre à la fois un petit peu macabre et amusant aussi. Pour découvrir un peu ce qui se passe sous les bandelettes des momies.
C'est ça, on ira un peu partout dans le monde là aussi se balader et vous avez de drôles d'histoires à nous raconter, on était stupéfaits par certaines d'entre elles. On va se retrouver dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent bien sûr sur franceinter.fr. Il y a environ 90 000 ans, notre ancêtre Homo sapiens serait allé bien plus loin que ce qu'on pensait lors de ses premières sorties d'Afrique. C'est ce qu'indique en tout cas une publication d'une équipe internationale dans la revue Nature, Écologie et Évolution. Les chercheurs de l'Institut Max Planck à Leipzig ont réussi à dater un os de doigt fossilisé appartenant bien à notre ancêtre Homo sapiens. Il a été retrouvé dans le désert de Nefoud au nord de la péninsule arabique. De quoi affiner donc un peu plus, Catherine de Coppet, le scénario des premiers déplacements de nos ancêtres.
Oui Mathieu, c'est ce qu'on va faire tout de suite grâce à notre invité en ligne depuis Leipzig, Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue et vous dirigez le département évolution humaine de cet institut qui a mené cette recherche. Alors la découverte de ce fossile de phalange confirme ce qu'on pensait, à savoir qu'Homo sapiens, il y a 100 000 ans, s'est aventuré hors d'Afrique, donc jusqu'à l'intérieur de la péninsule arabique. Alors pourquoi on s'en doutait ?
D'abord, juste une petite correction. Mon équipe est intervenue dans l'étude du fossile lui-même. La datation a été faite par un collègue australien. En fait, on sait déjà depuis un moment que des hommes modernes sont sortis d'Afrique il y a un peu plus de 100 000 ans. Et puis récemment, avec une découverte en Israël, on a retardé cette date à 180 000. Mais pour l'instant, ces découvertes aux portes de l'Afrique se limitaient aux régions méditerranéennes. Et cette fois-ci, on a un fossile qui est à 85 000, 90 000, dans la péninsule arabique, dans le désert. Et d'une certaine façon, c'est une confirmation parce qu'on avait déjà trouvé dans toute la péninsule arabique depuis maintenant une dizaine d'années des industries de pierre taillée qui ressemblent beaucoup à celles que l'on a de l'autre côté de la mer Rouge, en Égypte et au Soudan.
Alors pourquoi Homo sapiens s'est déplacé dans cette région qu'on appelle le désert du Nefoud ? C'est une histoire de changement climatique, comme d'habitude, j'ai envie de dire ?
Mais en fait, l'Afrique et l'Arabie d'autrefois n'ont pas toujours été comme l'Afrique et l'Arabie d'aujourd'hui. Et en particulier, de façon irrégulière, on a de temps en temps, au cours du Quaternaire, des épisodes que l'on appelle des épisodes de Sahara vert. Alors, il ne faut rien exagérer, le Sahara n'est pas devenu la Normandie, hein, mais des savanes, des lacs, des fleuves se sont développés dans ce vaste désert qui couvre l'Afrique du Nord, mais qui se continue dans la péninsule arabique. En fait, c'est le même domaine désertique, et donc vers cette époque-là, on a un épisode de verdissement du Sahara. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les hommes qui vivent en Afrique, qui sont adaptés à des milieux de savane, eh bien simplement suivent l'expansion de ce domaine éco-géographique, de ce milieu, j'allais dire de façon passive, sortent d'Afrique.
Alors à cette époque, il y a eu une fluctuation du coup de la frontière géographique entre Néandertal, qui était donc septentrional au nord, et Homo sapiens, qui était plutôt du côté tropical. On peut le voir comme ça, une espèce d'alternance dans cette zone du Proche-Orient ?
Voilà, c'est ça. On a en gros des Néandertaliens qui sont adaptés plutôt aux moyennes latitudes, on va dire fraîches et parfois même froides. Et puis notre espèce qui est une espèce tropicale. Et la frontière entre ces deux domaines fluctue. Et donc ces Africains qui sont adaptés à des milieux de savane se retrouvent en Arabie. On ne leur avait pas dit que ça n'était pas l'Afrique. Hein. Donc ils sont sortis d'Afrique sans le savoir.
Sans le savoir, ben oui. Il n'y avait pas de pancarte encore à l'époque, Jean-Jacques Hublin. Comment on a pu dater aussi précisément cette phalange ? Alors quelles sont les méthodes utilisées pour cela ?
Alors il y a dans cet article, il y a eu au moins deux méthodes qui ont été utilisées. Une méthode qui est une méthode de datation directe du fossile. En gros, on mesure la vitesse de désintégration de l'uranium qui est contenu en très petite quantité dans ce fossile. Je dois dire que cette partie-là est assez discutable parce que l'uranium, c'est un élément qui est très soluble, qui se promène, et donc c'est une date, je pense, qui a été retenue par les éditeurs du journal, surtout parce qu'elle est confirmée par une autre date, qui est la date des sédiments qui ont livré ce fossile. Et cette date, elle est établie avec une méthode qu'on appelle la méthode de luminescence optiquement stimulée, et qui permet de dater du sable, en fait, des grains de quartz ou d'autres minéraux qui ont été exposés à la lumière autrefois, et qui ont été ensuite enfouis, et on peut mesurer le temps qui s'est écoulé depuis cette dernière exposition au soleil.
On a un géologue d'ailleurs parmi nous, Jean-Jacques Hublin, qui est juste à ma droite, François Michel.
Oui, j'entendais l'introduction, eh oui. Je vais me précipiter pour acheter le livre des curiosités
Merci.
De France, parce que je suis quand même un ancien géologue.
Voilà, et donc François Michel, voilà, on a une sorte de calendrier dans les roches au fond, c'est très pratique pour dater les choses.
Hein. Ah, totalement, aussi bien dans les sédiments que dans des roches magmatiques, les moyens de datation sont totalement différents, on vient de nous en expliquer deux, ouais. Là, qui sont particulièrement intéressants, c'est vrai, et qui sont ce qu'on appelle de la datation qualifiable d'absolu. Mais l'absolu a toujours une certaine relativité.
Donc ça veut dire qu'on se trompe très peu finalement. Il y a quand même
Échelle de 85 000 ans, on se trompe assez peu.
Oui, donc c'est pas mal.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que cette extension géographique, donc des premières sorties d'Afrique pour Homo sapiens, préfigure sa grande expansion qui commence beaucoup plus tard, il y a 60 000 ans ? Est-ce que c'est le début finalement ?
Eh bien, peut-être pas vraiment, parce que en fait, longtemps, ces fluctuations du domaine de notre espèce sont liées à ces changements climatiques. On soupçonne même que lors d'une de ces sorties, les Homo sapiens se sont installés dans le sud de l'Asie, dans les zones tropicales. Et c'est à partir de cette base de départ qu'ils auraient colonisé l'Australie vers 60 000. Et puis ensuite, il y a une autre sortie d'Afrique, une autre expansion qui est, si je peux dire, la bonne. C'est celle qui va amener nos ancêtres, non pas seulement dans les zones tropicales où ils sont le mieux adaptés, mais dans des territoires complètement nouveaux, et en particulier ceux où vivent les hommes de Néandertal. Et là, ce qui est en cause, ça n'est pas juste une fluctuation climatique, puisque ces hommes, ces Africains qui ont évolué dans des milieux chauds, eh bien, vont non seulement s'adapter au milieu tempéré et frais, mais même aller dans des endroits où les Néandertaliens ne sont jamais allés, c'est-à-dire dans les zones arctiques et puis vers les Amériques. Ouais. Et là, ce qui est en cause, c'est pas les fluctuations de l'environnement, ce sont vraiment des changements internes à ces populations, à leur organisation sociale, à leur technologie, à leur démographie aussi, probablement.
Ouais. Jean-Jacques Hublin, est-ce qu'on peut imaginer que certains homo sapiens aient fait le choix de revenir en Afrique, parce que finalement, ils étaient très bien et ils n'avaient pas envie d'aller ailleurs?
Ah mais non seulement on peut l'imaginer, mais on en a la preuve. Mmh. Hein. Et on en a la preuve, pourquoi? Eh bien parce que quand on regarde l'ADN de groupes humains modernes qui ont quelques milliers d'années, ils sont pas très très anciens, mais ils ont quand même quelques milliers d'années, qui vivaient dans la corne de l'Afrique, dans l'est de l'Afrique, eh bien on trouve dans leur ADN un tout petit peu d'ADN d'homme de Néandertal. Et comme il n'y a jamais eu d'homme de Néandertal en Afrique, la seule explication qu'on ait, c'est que c'est un retour vers l'Afrique, si je peux dire, de certaines populations modernes.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que ce qu'il reste à trouver maintenant, ce sont des traces d'Homo sapiens, donc un peu plus à l'est, vers l'Inde et la Thaïlande, en fait, entre l'Australie et la péninsule arabique ? Pour faire
voilà,
large.
C'est ça. Alors, on a quand même un jalon ou deux qui sont tout à fait intéressants en Asie du Sud-Est. Au Laos, un gisement qui s'appelle Tampalin a livré des restes d'hommes modernes à 60 000 à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a un vide chronologique et un vide géographique énorme entre l'Asie du Sud-Est et puis, disons, Israël et puis l'Arabie. Et là, dans le fond, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, disons, entre 120 000 et 60 000. Et on soupçonne qu'il y a probablement à un moment donné des hommes proches de nous qui vivent déjà dans ces régions. Et tout reste à découvrir, puisqu'on n'a aucun fossile pratiquement de cette époque-là dans ces régions.
Voilà, en tout cas, on ne se lasse pas d'avoir des précisions sur les origines d'Homo sapiens. Jean-Jacques Hublin, merci beaucoup en tout cas à vous. Vous étiez en direct de Leipzig, où vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck. À bientôt sur France Inter. Et puis Catherine Ducopet, à bientôt également, puisqu'on retrouvera Axel Villard lundi. Merci à vous. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les courants océaniques de l'Atlantique s'affaiblissent et ça n'annonce rien de bon. Selon deux études parues récemment dans la revue Nature, c'est le changement climatique qui en serait en partie la cause. L'AMOC, acronyme scientifique de l'ensemble de ces courants atlantiques, a atteint son plus faible niveau depuis 1600 ans sous l'effet de la fonte des banquises et des glaciers. C'est la présence d'eau douce due à cette fonte qui ralentit la force des courants océaniques. Ces derniers sont pourtant des régulateurs essentiels des eaux marines. Ils transportent des nutriments, de l'oxygène et des larves de coraux qui contribuent à absorber le CO2, le déclin de ces courants pourrait avoir pour conséquence, entre autres, bouleversement des tempêtes hivernales fréquentes en Europe. Et si la longueur des jours avait un effet sur les plantes, des biologistes suédois ont remarqué qu'il existait ce qu'on appelle la photopériodicité chez les arbres. Pendant les jours courts, les cellules de certains arbres ne sont plus alimentées. Les canaux de communication entre ces cellules responsables de la croissance se bloquent. Conclusion, les plantes semblent se fier à la durée du jour pour sortir de la dormance liée justement au changement de saison et déclencher leurs hormones de croissance, et ce, quelle que soit la météo. Et puis, lorsque taxer les sodas contribue à la santé publique, les scientifiques de l'université de Dexrel aux États-Unis ont noté la baisse de 40% de la consommation journalière de soda chez les habitants de Philadelphie, et ce, depuis que ces boissons coûtent plus cher. 58% du panel de citoyens étudiés sont même devenus des buveurs d'eau réguliers. Il a été très largement prouvé que les calories des boissons sucrées pouvaient être associées à un risque élevé de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiaques. Il reste maintenant à espérer que l'effet de la taxe perdure dans le temps. Allez, c'est le club dans un instant. Ça s'appelle « Voir les étoiles tomber ». C'était Barbara Carlotti à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Voilà, dans le club cet après-midi, un roman justement sur l'étoile russe Gagarine, un guide des curiosités géologiques de France et puis un livre jeunesse sur les momies avec mes invités Anne-Marie Revol, journaliste à France 2, Fleur Dauget, écrivaine et éthologue, et François Michel qui est géologue. On discute bien sûr avec vous, vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque si vous avez des questions à poser à nos invités sur ces différents sujets. Anne-Marie Revol, on commence avec vous, c'est un roman, l'étoile russe, il paraît chez Jean-Claude Lattès. Et cette étoile, c'est le cosmonaute Yuri Gagarine qui est mort il y a 50 ans.
C'est l'instant de suspense sur l'aérodrome de Moscou. Des milliers de regards se sont concentrés sur l'homme en uniforme qui descend d'avion, Yuri Alexeyevitch Gagarine. Le président Khrouchtchev avait voulu être le premier à le serrer dans ses bras. Il le fit dans l'enthousiasme. Puis, Yuri Gagarine embrassa un père et une mère dont on imagine l'émotion. Le jour G, comme Gagarine, avait commencé pour Moscou. Une ovation ininterrompue a conduit l'homme de l'espace jusqu'à la place rouge. Et à la tribune du mausolée de Lénine, la foule qu'on a évaluée à plus d'un million de personnes a pu acclamer à loisir l'homme qui peut, le premier, se vanter d'avoir vu de ses yeux la Terre ronde comme une boule et d'avoir vécu la plus extraordinaire aventure du siècle.
Et c'était donc en 1961, Anne-Marie Revol, et depuis on a quasiment tout dit quand même sur ce héros de l'espace, Yuri Gagarin, non ?
Oui, sauf que je trouve qu'on en a quand même gardé l'image d'un homme parfait,
ouais.
Parce que c'est ce que l'Union soviétique a voulu créer pendant des années. Donc c'était un homme qui n'avait aucun défaut, qui était un père idéal, un cosmonaute idéal, un camarade de classe et de formation idéale. Or, derrière le personnage, il y a un homme vraiment qui a eu un avant et un après son vol.
Ouais.
Et un après son vol a été beaucoup plus triste que l'avant son vol.
C'est ça. Et vous vous êtes chargé du coup de, pas redorer l'image justement, hein, mais de l'égratigner un petit peu.
L'égratigner ou en tout cas de parler de l'homme tel qu'il est, de lui redonner de la chair et un cœur, parce que vraiment c'était une espèce de monolithe parfait qui a été trimballé aux quatre coins du monde pour vanter le génie soviétique. Or derrière, c'est un homme qui a été profondément blessé, triste et qui en est devenu assez déprimé d'avoir été cloué au sol après son exploit.
On l'a empêché de voler en fait
On lui a interdit de reprendre le manche d'un avion de chasse ou de repartir dans l'espace, parce que s'il disparaissait, l'URSS perdait son meilleur ambassadeur et se disait qu'il ne pourrait pas s'en remettre.
Et ironie du sort, c'est ce qui s'est passé.
C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on lui interdit de revoler, il tanne ses supérieurs, on finit par craquer, il revole donc en mars 1968, un premier vol avec un instructeur nickel.
En fait, il devait repasser ses brevets, en fait.
Oui, puisqu'il avait perdu ses heures, comme tout pilote. Et puis au troisième vol, le dernier où il devait voler avec un instructeur, il aurait volé, fait le quatrième seul, il s'est crashé en avion, ce qui est totalement paradoxal. Ouais.
Et il avait 34 ans, donc il était extrêmement jeune. Justement, autour de la table, un petit mot pour savoir ce qu'évoque pour vous Gagarine, parce que c'est une image quasiment désuète maintenant de la conquête spatiale. Fleur Daugey.
Ben justement, moi, je sais que c'est un astronaute russe, enfin un cosmonaute russe, comme on dit.
En fait, on dit cosmonaute en URSS, on dit spationaute aux États-Unis et on dit astronaute en France.
Et on dit taïkonaute en Chine aussi, d'ailleurs.
Je connaissais pas.
Au Japon, Ben en effet, je savais pas du tout qu'il était mort si jeune. Enfin, je suis assez curieuse d'en savoir plus. Du coup, là, ça m'a
François Michel, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
On va lire le bouquin, mais moi,
Gagarine,
je me rappelle très bien. J'avais 13 ans, pour rien vous cacher. Donc, je me souviens très, très bien de cette aventure.
Oui, vous vous souvenez de quoi, alors? C'est parce que quand on a 13 ans, on est sensible à ce type d'image, quand même. Ce premier homme aller dans l'espace.
C'était quelque chose d'absolument fantastique de faire le tour de la Terre comme ça, dans le ciel, dans l'espace. Et je me souviens d'une phrase assez étonnante. Il a dit « J'ai fait le tour de la Terre, le tour du ciel, et je n'ai pas rencontré Dieu. »
Donc ça. Donc c'est pour ça que vous vous êtes dit finalement, c'est très bien de devenir géologue, c'est pas la peine d'aller là-haut, et je reste
sur le plancher des vaches, pour les cailloux.
Ce qui est très drôle à propos de cette phrase, c'est qu'il ne l'a jamais prononcée.
Ah bon?
Comme « Et Dieu dans tout ça » pour Charles Chancel, c'est des phrases qui n'ont pas été prononcées. Je pense que derrière, c'est de la pure propagande en fait.
Tout à fait, je le crois.
Et pourquoi vous êtes intéressé à lui, Anne-Marie Revol, alors? Pourquoi on ressort un personnage comme Gagarine? Parce que voilà. J'en parlais ici à cette antenne hier matin aussi. Et finalement, le personnage est assez fascinant, mais est-ce qu'il évoque quelque chose aux Français maintenant?
En fait, il y a deux choses qui ont déclenché Yuri Gagarine chez moi, cette envie d'écrire quelque chose. D'abord, Thomas Pesquet. J'ai un petit garçon qui avait 7 ans quand il est parti. Donc, comme je suis journaliste, j'ai un peu travaillé le sujet pour lui en parler. Et je suis remontée évidemment à Gagarine, père de tous les cosmonautes. Et puis, c'est pas parce que je suis France Inter, mais je suis tombée totalement pantoise en écoutant une émission animée par Drouel sur Affaires Sensibles, consacrée à Gagarine. Ah, et là, j'ai découvert, mais vraiment. Et j'ai découvert en fait que cet homme était ultra sensible et avait profondément souffert, était mort très jeune. Et un truc qui m'avait profondément marqué en écoutant l'émission, c'est que même sa femme n'était pas au courant de ce qu'il préparait.
Ah, ça c'est incroyable.
Ça c'est un truc qui m'a semblé.
Elle l'a appris quand il était.
Elle l'a appris
quand il avait décollé quasiment.
Exactement. Elle était maligne, donc elle se renseignait, mais il n'avait pas le droit de lui dire. Toutes les semaines, le patron de la Cité des Étoiles convoquait les femmes pour leur dire occupez-vous de vos casseroles et de vos enfants, mais ne cherchez pas à savoir ce que préparent vos maris. Et donc même sa femme ne savait pas. Et là, je me suis dit, il y a un sujet de roman. Et d'ailleurs, au début, mon roman, je voulais le faire du point de vue de la femme, de Gagarine. Et puis, j'ai découvert tellement de personnages autour de Gagarine que j'ai eu envie de donner la parole à plusieurs personnes.
Ouais, mais il y a plein de personnages de femmes, cela dit. Il y a la femme, il y a la maîtresse, il y a la journaliste, d'ailleurs. Et alors, il y a cette femme, cette histoire est vraie, qui a récupéré Gagarine dans son jardin quand il est revenu sur Terre, quoi.
Alors là où on est en train de laisser le roman pour cet ouvrage, c'est que cette paysanne a réellement existé. C'est une vieille babouchka qui plantait ses patates dans son champ avec sa petite fille. Et puis, il y avait le veau qui était à côté. D'un seul coup, elles entendent un bruit, elles lèvent la tête, elles voient rien, elles se disent bon, il se passe quelque chose. La grand-mère dit à sa petite fille bon, tais-toi, rebosse. Puis la petite fille insiste, elles vont derrière le talus et là, elles voient débouler un homme dans un scaphandre orange avec un homme qui ressemble à un bocal à poisson rouge sur la tête. Ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, elles ont peur, elles partent en courant et Yuri Gagarine dit mais je suis des vôtres, camarades.
Il sentait très mauvais.
Il sentait très mauvais. Alors ça, c'est pas dit dans l'histoire officielle, mais j'ai rencontré la petite fille d'un homme, d'un militaire qui est arrivé. Oui, il sentait très mauvais, mais il avait été quand même baladé dans sa boule à une vitesse Disneyland. À côté, c'est rien, et il s'était vomi dessus, effectivement. Et en fait, ce que j'ai voulu faire de ce personnage, donc ce qui est vrai, c'est que cette paysanne existe, sa petite fille existe, elle l'a réellement accueillie, elle l'a réellement sortie de son casque, elle l'a conduit à un téléphone, et là où ça devient un roman, c'est qu'en fait, je ne sais rien d'autre de cette femme, et je lui ai inventé un passé, un futur et un présent. Donc voilà, c'est l'idée. Et ce qui est terrible, et ce que j'ai découvert aussi, c'est que cette femme, pendant 30 ans, a dit à la Terre entière qu'elle avait sorti Yuri Gagarine de sa fusée. Or, Yuri Gagarine n'a jamais atterri dans sa fusée, puisque le système d'atterrissage n'était pas au point. Il voulait griller l'Amérique, donc ils l'ont envoyé avant Shepard, il savait que Shepard c'était pour mai. Donc, il a atterri en parachute. Et effectivement, elle a une visite du KGB qui lui a dit...
Il déboule rapidement d'ailleurs.
Il déboule assez rapidement, mais il borde tout, les soviétiques, il n'y a rien qui traîne. Et on lui a dit, tu sais quoi cocotte, si tu veux pas avoir d'ennui, bah, tu vas raconter que tu l'as sorti de sa fusée. Et elle a fait le job pendant plus de 30 ans.
C'est ça, très bonne attachée de presse de l'agence spatiale russe, évidemment, à l'époque. Et c'est vrai qu'il est reparti aussi rapidement qu'il était arrivé dans ce jardin, finalement.
Effectivement. Et alors, ce qui était très très drôle, c'est que donc à l'époque, j'ai appris aussi en travaillant ce livre, tous les soviétiques avaient un poste de radio chez eux, parce que la radio c'est un outil de propagande fascinant et très efficace. Et donc dans le village là à côté, ils étaient tous au courant, mais avec une demi-heure de décalage, que Yuri Gagarine était dans l'espace. Et quand elle est arrivée avec Yuri Gagarine au village, les gens n'y croyaient pas. Ils se sont dit, non mais il y a 30 secondes on nous a dit qu'il est en haut, vous nous le ramenez en bas, c'est pas lui. Et lui il était mais extrêmement jovial, heureux, puis alors surtout il en revenait pas d'être vivant, hein. Ouais. Et donc il était entouré. C'est un miracle.
Ah oui, c'est un vrai miracle, oui.
Donc il se retrouve entouré de tous ces gens qui commencent à lui demander des autographes, à prendre des photos, etc. Et hop, aussi vite il est arrivé, aussi vite il est reparti, les militaires l'ont embarqué, ouais. Et ils l'ont plus jamais vu.
Et il avait une chance sur deux, hein, clairement, de revenir
moins
sur
que ça.
Terre.
Hein, moins il y avait 54% de risques qu'ils ne reviennent pas et 46% de chances qu'ils reviennent. Et ça, pendant plus de 30 ans, ça a été mis sous le bio, c'est pareil, on n'en a pas parlé. Ouais. Et le 12 avril 1991, 30 ans après l'exploit de Gagarine, en pleine perestroïka, Gorbatchev se demande qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, pour essayer de redonner une fierté à ce pays qui n'a plus de passé, pas d'avenir. Et on lui a suggéré de déclassifier secret défense les archives concernant le vol de Gagarine. Et c'est là qu'on a appris 30 ans après qu'il a vraiment failli crever plusieurs fois.
Ouais. Alors il y a le pouli d'or aussi hein, de cette affaire quand même qui s'appelle Titov, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Le malheureux, hein, parce qu'il en restait deux. Ils sont partis, ils étaient 3000, un pilote, choisi aussi par un militaire dont vous parlez aussi dans...
Kamanine.
Voilà.
L'horrible Kamanine.
Et donc il y avait 3000 militaires, il fallait en choisir un pour partir donc dans l'espace, et il en restait deux. C'est Khrouchtchev, hein, d'ailleurs, je crois, qui a fait le choix sur photo.
Sur photo. Et effectivement, donc 2-3 000, ils sont passés à deux. On hésitait entre Titov et Gagarine, et ce qu'il a emporté est absolument à la fois fascinant et affligeant. Gagarine l'a emporté parce qu'il s'appelait Yuri, qui n'a pas de prénom plus russe que Yuri. Hein, c'est un Pierre, c'est un Jean pour les Français. Gagarine était une parcelle de l'histoire soviétique à lui tout seul, puisque enfant, il a vécu la famine, la guerre, l'expropriation, ce qui n'était pas du tout le cas de Titov.
Fils de logique,
enfant,
hein.
Voilà. Et Titov est un enfant d'enseignant, donc il est un peu bourgeois. Et puis, il mesurait 1 mètre. Attends, autre chose aussi, il était fils de paysan, diplômé métallo. Donc il est la faucille et le marteau, il est l'incarnation du drapeau. Et surtout, il mesurait 1m57. Et je fais dire à Titov dans
Gagarine
le livre...
Gagarine a mesuré 1m57.
Voilà, pardon, excusez-moi. Gagarine mesurait 1m57 et le pauvre Titov mesurait 1m63.
Trop grand.
Et c'est 6 cm, oui. On fait la différence puisque la capsule était toute petite et qu'il fallait pouvoir se loger à peu près confortablement dedans. Donc c'est Gagarine qui est parti, alors que Titov, qui est parti 6 mois plus tard, a fait mieux que lui. Mais on l'a totalement oublié.
Il
dans
a mal fini,
de
le pauvre, d'ailleurs. Hein.
Il a mal fini. Il s'est très vite mis à boire.
Il a fini dans... Oui, c'est ça.
C'est ça. Il était un peu... Mais en fait, c'était un peu comme des footballeurs. Ça leur monte à la tête, hein, très vite. D'un seul coup, ils avaient de l'argent, de la liberté, et ils ne tournaient pas toujours très bien.
Anne-Marie Revol, on va écouter un son d'archives de 1967, donc 6 ans après le retour, et on va entendre la voix de Gagarine.
Yuri Gagarine, il y a 10 ans, était lancé le premier Spoutnik. Comment avez-vous appris le lancement de ce premier Spoutnik ?
À mon avis, ce fut un grand événement, pas seulement pour notre pays, mais aussi pour le monde entier, puisque c'était la première fois que l'humanité arrivait à se dégager des liens qui le rattachent à sa planète. Il est évident que cette information a soulevé une vive émotion dans notre peuple tout entier et parmi nous autres. Je me rappelle qu'avec mes amis, nous avons commencé à discuter de cette nouvelle, à penser à faire des propositions pour les futurs projets du développement de l'exploration cosmique.
Est-ce que vous aviez envie déjà d'être cosmonaute ?
Il est évident que dès que nous avons tous appris cette nouvelle, nous avons eu envie de devenir tous cosmonautes. Mais à dire vrai, il y avait peu d'espoir, puisqu'à notre avis, il devait se passer au moins 10 ou 15 ans avant que le premier vol spatial n'ait lieu. Mais comme vous avez pu le voir, la vie a dépassé nos prévisions.
Ah oui, ils sont allés beaucoup plus vite, hein, entre le premier Spoutnik et Gagarine, il y a 4 années à peine.
Il y a 4 années, il n'y a qu'une seule année d'entraînement. Et ce qui est amusant, ce qu'il ne dit pas du tout, c'est que quand les cosmonautes ont été entendus au début, ils ont passé leurs oraux, hein, pour être sélectionnés, on leur a dit, est-ce que ça vous dirait de piloter un engin d'un genre nouveau ? Donc le mot fusée, capsule, vaisseau n'a pas été prononcé. Et donc en fait, pendant des mois et des mois, ils se sont entraînés à quelque chose dont ils ne connaissaient pas la finalité.
Bon alors, l'histoire de la maîtresse, alors, qu'est-ce que c'est que ça, Anne-Marie Revol, puisque effectivement, là, c'est une autre image de Gagarine. Hein.
L'image de Gagarine officielle, c'est un homme parfait, un père parfait, ouais. Et les deux filles de Gagarine sont encore vivantes, se chargent de, évidemment,
de cultiver cette image.
Or, Gagarine, dans tout ce que j'ai lu des articles de journalistes russes, de femmes russes de l'époque, a raconté qu'il avait la main extrêmement baladeuse, qu'il était très séducteur, qu'il avait une cote au zénith à la Cité des Étoiles, ouais. Et puis il est aussi avéré qu'il a officiellement trompé son épouse, quand même attrapé dans une chambre avec une infirmière.
Balance ton Gagarine.
Balance ton Gagarine, qu'il a dû sauter sautait d'un balcon qui s'est ouvert la tête et le lendemain il était tellement abîmé parce que un cosmonaute ne peut pas être abîmé qu'il a pas pu prendre la parole dans une conférence où il était attendu. Ouais. Donc j'ai imaginé, c'est là que c'est ma partie de roman, une maîtresse qui est la quintessence de toutes ces maîtresses, une française évidemment puisqu'on a quand même voilà. Et j'ai fait vivre avec cette maîtresse toute la détresse de Gagarine. Je crois que c'est un des chapitres les plus tristes de mon livre, une des histoires les plus tristes, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il est profondément désespéré d'être cloué au sol. Ouais. Il disait lui-même, je suis un sapin de Noël, il n'y a même plus de place pour accrocher une boule, tellement il avait une médaille sur son costume.
Ouais. Et il y a aussi des Russes dans ce roman écornent aussi cette image contre le régime aussi soviétique, pour
des
en dire...
Des Russes qui avaient les yeux ouverts, qui étaient conscients qu'on leur envoyait du rêve, mais que derrière du rêve, il y avait quand même une réalité.
Ouais. Thomas Pesquet, c'est le petit-fils de Gagarine, au fond ?
Oui, tous les cosmonautes, astronautes, spationautes sont les petits-fils de Gagarine et ils ont prolongé des rituels mis en place malgré lui par Gagarine, comme par exemple faire pipi sur la roue arrière du véhicule qui vous amène au pas de tir.
Avant le décollage.
Avant le décollage, ce que Gagarine a fait, mais lui parce qu'il n'était pas bien. Donc ils le font tous. Claudine Huret raconte qu'elle a dû le faire dans un petit verre et ça a été versé sur la roue. Chacun grave son nom sur la porte avant de partir et si possible, en tout cas pour les hommes, on ne se rase pas.
Et ça s'appelle L'Étoile russe, c'est ce roman donc, que vous signez Anne-Marie Revol et qui sort chez Lattès. Est-ce que c'est Andy Warhol qui a fait cette couverture ou pas? Non.
Oui, bien sûr, je l'ai appelé et il avait un peu de temps.
Inspiré par Andy Warhol.
Voilà.
Allez, vous restez avec nous dans un instant. Balade sur les curiosités géologiques de France.
My enemy, so stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, 'cause you're upset with me. I'm warning you. 'Cause all the nights you slept alone, drying your
The Weeknd à l'instant sur France Inter dans cette tête au carré avec Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de notre émission. François Michel, vous êtes avec nous pour ce livre Guide des curiosités géologiques de France. Vous êtes géologue et guide d'ailleurs de haute montagne. Vous êtes consultant pour le Centre technique de la pierre et cet ouvrage, sort aux éditions Belin avec un patrimoine à découvrir de 200 sites géologiques que vous avez aimablement sélectionné pour nous parce que vous auriez pu faire 3-4 tomes. Il y avait largement de quoi faire.
C'est peut-être le futur, mais oui, 200 sites que j'ai tous visités.
Voilà, sur et lesquels... pas seulement la France métropolitaine.
Ah non, je tenais absolument à ce qu'il y ait quelques sites dans les DOM. Alors c'est vrai qu'il en manque un, je ne suis pas allé à Mayotte, mais Guadeloupe, Martinique et Réunion aussi sont dans le bouquin.
Ouais. Mais tiens, si on commençait par la Guadeloupe par exemple, puisque c'est un des sites que vous aimez tout particulièrement, je sais.
Je vous vois venir, à l'île de la Désirade par
pourquoi
exemple.
Pas, On y va d'ailleurs, tiens, on peut partir tout de suite et puis on commande juste après pour savoir ce qu'il y a d'intéressant géologiquement parlant.
Un paysage aux allures de paradis. La Désirade est bien plus qu'un joyau posé sur l'océan. C'est aussi une île qui recèle en son sol de véritables pépites pour les géologues. 62 hectares à l'est de cette terre sont devenus réserves naturelles nationales. La croûte terrestre, invisible de tous et noyée sous les océans, affleure à l'air libre. Un véritable trésor géologique que l'État veut préserver et protéger. Et ce n'est pas tout. Dans la roche volcanique de la Désirade, les experts peuvent lire les débuts de l'histoire de la plaque Caraïbe. Car ici, la pierre est vieille de 150 millions d'années. Tout prélèvement de roches ou d'espèces végétales sera désormais interdit à la pointe Oubliée et à la pointe du Grand Bac.
Voilà, ça c'était sur France 3 Outre-mer en 2011, au moment de la création justement de la réserve naturelle de la Désirade. Et là, vraiment, vous décrivez un lieu qui est la figure de proue au fond de la Guadeloupe.
Tout à fait. La Désirade, l'île désirée, parce que les marins de Christophe Colomb, après 3 semaines de voyage, la trouvent enfin. Et c'est vrai que dans sa partie est, on a là la signature de la naissance de la plaque Caraïbe. Voilà, naissance de la plaque Caraïbe il y a 150 millions d'années. Et j'ai eu la chance de travailler pour cette réserve et pour mettre au point justement les différents documents aujourd'hui de vulgarisation et de présentation. Et c'est vrai que quand on circule le long du rivage, là où la mer a décapé les roches, eh bien on peut assister à ces phénomènes, ces pilots lava, ces roches créées au fond de l'océan Pacifique à cette époque-là, puisque l'Atlantique n'existait pas, puisqu'à ce moment-là, l'Amérique du Nord était collée à l'Afrique.
Donc là, on était il y a combien de millions
150 millions d'années à peu près, voilà. On était dans le Pacifique, et puis petit à petit, l'Atlantique s'est ouvert, la plaque Caraïbe s'est formée, et on assiste là à cette naissance avec des objets volcaniques, des objets éruptifs, sous-marins et aussi aériens qui sont très 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 intéressants. La preuve qu'il y avait des volcans pas loin, puisqu'on retrouve des couches de cendres, justement on parlait de datation, des couches de cendres qui se sont accumulées à proximité de volcans aériens et sur les fonds océaniques de l'époque.
Alors ce patrimoine, il est extraordinaire, ce patrimoine géologique de la France, et puis il est très ancien, parce que là on parle en millions d'années, mais on pourrait aussi parler en France en milliards d'années, et ces roches sont datées des époque très lointaine.
On peut parler jusqu'à 2 milliards d'années. 2 milliards d'années dans deux secteurs de France, soit dans les Côtes d'Armor, du côté de Ploumana, pour citer Perros-Guirec, par là.
Est-ce que c'est indiqué d'ailleurs sur place? Est-ce qu'il y a une petite plaque disant ici vous êtes sur les plus anciennes roches là d'Europe?
Non, mais ça, c'est quand même été beaucoup décrit. Ouais. Et puis dans le Cotentin, c'est vrai, au nez de Jobourg, où on a là un affleurement très très beau, très très particulier de roches qui ont 2 milliards d'années. Puis après, on fait un grand saut. On fait un grand saut et on nous ramène à grosso modo quand même à 600 millions d'années, c'est déjà une vieille histoire, et où on va trouver pas mal de témoignages, et principalement quand même dans le domaine armoricain. On exploite aujourd'hui par exemple des granites qui ont 600 millions d'années, c'est eux qui font la façade de la Villette par exemple, une vieille histoire. Donc, et puis après on va rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus récentes et qui vont nous promener dans le Jura, dans les Alpes, en Bourgogne, où on
absolument.
A beaucoup de
roches. On va absolument partout avec vous. D'ailleurs la couverture du livre représente quel site exactement?
Voilà, là on est dans la région d'Apt, on est dans le Luberon, on est au village de Roussillon, et ça ce n'est pas un affleurement naturel, c'est une ancienne carrière d'ocre qui a donné ces falaises absolument merveilleuses qu'on trouve à Roussillon et qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle le Colorado provençal à Rustrel, juste à côté d'Apt.
Voilà, donc on va faire le tour de France. Il y a même des musées que vous nous indiquez. Le but, c'est de partir en balade, évidemment, pour découvrir ces sites qui sont assez méconnus. Parce que vous dites bien que le patrimoine géologique de la France, on le connaît peu.
Alors, oui, il y a les grands musts. Sans doute un des plus grands musts, ce sont ces fameuses ammonites de Digne. On a là au bord de la route des ammonites, des centaines d'ammonites qui sont grosses comme des roues de scooter, et donc qui ont été moulées, façonnées en moulage, emmenées jusque au Japon, dans des musées, enfin qui sont connues dans le monde entier. Et puis il y a des choses bien sûr beaucoup plus discrètes, beaucoup plus secrètes. Il y a les fossiles, certes, il y a les roches aussi, comme ces roches très étonnantes de l'île de Groix qui signent Bretagne, toute une histoire ancienne de la Bretagne, mais il y a aussi des paysages. C'est pour ça que dans un guide comme ça, on est toujours à la frontière entre la géologie et la géomorphologie, c'est-à-dire ces formes de relief qui nous épatent, qui sont belles, qui sont plissées, qui ont de l'allure. Ouais. Hein, ce grand pli qui est en face de Sallanches. Ouais.
Et qui témoigne aussi des mouvements de la Terre, hein, parce que c'est ça qui se traduit aussi dans ces plis des roches.
De la tectonique.
Absolument. Fleur d'Auger.
Oui, j'avais une question. Est-ce que vous parlez du rougier de Camarès du sud Aveyron?
Non, je n'en parle pas.
Dans le prochain tome, alors.
Pourquoi est-ce que vous aimeriez qu'il en parle?
Ce sont des dunes, on a l'impression d'être sur la planète Mars, qui sont très rouges, c'est à côté de mon petit village en Aveyron, justement. C'est vraiment un endroit très très particulier, où il y a des petites pellites d'oxyde de fer qui donnent cette couleur rouge-là, et ce sont des paysages vraiment incroyables.
Alors celles-là, je ne les connais pas, mais ce sont sans doute les mêmes que l'on retrouve au niveau du lac du Salagou.
Oui, voilà.
Voilà.
Oui.
Alors ça, j'en parle, bien sûr.
Parce que le lac du Salagou, très loin du Salagou.
Le Salagou, c'est un must. Alors, je ne connaissais pas votre village, mais vous allez m'y inviter.
Oui, bien sûr.
Mais là, on est dans des pellites permiennes. C'est-à-dire qu'on est, il y a un peu plus de 200, 220, 230 millions d'années, à une période où la France était assez désertique et où on trouve ces roches rouges qui ont été hyperoxydées. Et comme aujourd'hui, elles sont un petit peu relevées avec un pendage de l'ordre de 30, 40 degrés qui a été resculpté par l'érosion, on a l'impression de voir des plis. En fait, ce sont des faux plis. C'est un paysage en chevron qui est très très beau, tout près duquel il y a aussi des fossiles dinosaures à la dalle de la Lieude. Ouais. Voilà.
Alors, ce qui est extraordinaire, François-Michel, en vous écoutant, c'est le vocabulaire, les termes géologiques ou justement géomorphologiques, qui sont très précis, évidemment, scientifiquement parlant, et qui traduisent des phénomènes tout à fait particuliers. Alors, les tombolos, les dikes, on les prononce comme ça?
Les dikes.
Les dikes, les glaucophanes, les cirques, bon, voilà, ça c'est un peu plus connu. Mais il y a vraiment tout un lexique très particulier à votre discipline, hein.
Tout à fait. Alors ce lexique, il participe à la fois de la géographie, de la géomorphologie et de la géologie. Glaucophane, c'est un minéral. Tombolo, c'est un objet. C'est simplement un cordon de sable pour relier une île, qui est devenue maintenant une presqu'île, jusqu'au continent. On a deux très beaux tombolos en France.
Ah bon,
entre autres, grands. Eh ben, il y a celui de Penthièvre qui relie Quiberon à la côte. Ouais. Et puis, il y a le double tombolo de l'étang des Pesquiers qui relie la presqu'île de Gien à Hyères.
Et c'est rare, le double tombolo.
Ah oui, c'est pas très fréquent.
Anne-Marie Revol.
Oui, il y a une chose qui me fascine chaque été, dont je suis incapable d'expliquer l'origine à mes enfants, ce sont les demoiselles coiffées qu'on rencontre dans le Kira.
Exactement.
Qui ressemblent, donc, je me trompe pas, ce sont bien des cônes très très hauts, très très minces, et avec une boule qui tient en équilibre dessus.
On dirait des statues, géantes.
Voilà, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où?
Alors celle du Kera, elle est juste au croisement après Château Kera, en montant sur Saint-Véran.
Sur la route de Moline.
Voilà, donc elle est très très belle, elle est isolée là dans la forêt.
On voit qu'elle.
Alors si vous voulez avoir une explication un petit peu plus précise, je vais en dire deux mots certes, mais il faut aller au sud de Savines-le-Lac, au bord du lac de Serponçon, où là il y a tout un festival de demoiselles coiffées, ou bien au niveau du bal à Théus, juste en aval du barrage de Serponçon. On est dans des anciennes moraines d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. C'est pas forcément toutes des moraines de la dernière glaciation, ça peut être de la glaciation précédente. Et dans ces moraines, on a des matériaux qui sont très hétérogènes. Il y a des gros blocs, il y a des graviers, des gravats, du sable et des argiles. Et ces moraines, ces tas qui sont très hétérogènes, ont été tassés un petit peu par le caillou, mais pas beaucoup, et sont protégés de la pluie et du ruissellement. Donc l'érosion, petit à petit, à la fois attaque, sauf à l'aplomb du caillou. Et puis, petit à petit, cette érosion et les circulations d'eau à l'intérieur de la cheminée densifient, soudent un peu le matériau sous le chapeau. Et le vœu, il faut faire un vœu. Hein. Quand vous touchez le bas de la demoiselle, votre vœu sera exaucé, sauf si la demoiselle perd son chapeau dans l'année.
Bon, bah, vous ferez ça au mois de juillet, Marie Revol, en allant dans le Kera. Alors, curiosité géologique de France. Et vous commencez, vous ouvrez l'ouvrage par le King. Hein. C'est le Mont Blanc.
Pour ma part, ce n'était pas possible de faire autrement. Ouais. Voilà.
Mais vraiment, il y a une fascination pour vous sur.
Heureusement. Ouais. J'espère qu'elle est pour tous.
Mais pourquoi? Non, mais pour quelle raison? À part évidemment le gigantisme de cette
alors,
montagne.
Alors, il y a cette Majesté Mont-Blanc, il y a les roches, il y a sa naissance qui est très récente. Il y a 5 millions d'années, il sortait à peine de terre. Il est là présent. Et puis il y a, quand on monte en face dans les Aiguilles Rouges, au Brévent ou bien à la Flégère, il y a ce paysage qui est particulièrement bien dessiné avec ces énormes montagnes granitiques. magnétique. Cette vallée de Chamonix, qui est une vallée glaciaire très très bien dessinée, avec des pentes que l'on peut aider, un relief que l'on peut expliquer. Le fond de la vallée, qui est une constitué elle de roches sédimentaires qui ont été pris en sandwich, qui ont été serrées et qui affleurent au col de Balme par exemple. Donc là on a un paysage, et puis c'était symbolique pour moi pour démarrer un Tour de France.
Voilà, absolument, et on aimerait bien vous embarquer avec nous en vacances, parce que avec votre œil on doit découvrir des choses absolument extraordinaires, mais on a ce guide hein, justement.
Exactement.
Qui va nous servir d'objet pour ces congés. Ça s'appelle Curiosité géologique de France, des fiches illustrées, 200 sites à découvrir partout dans le pays, et c'est aux éditions Belin. On parle momie dans un instant.
Fascinant.
Tu rêvais à Chopin ou à Franz Liszt, dans un grand salon de l'hôtel Ritz. Tu écrivais les mots sur un bloc-notes. Tu ressemblais à la Zeta de Scott. Tu portais une cape de Zipline en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Toutes les femmes de la terre étaient là, dans un coin de ta tête de soldat. Angela, Rosa et Virginia, et tant d'autres que je ne connais pas. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tous les mots étouffés par les baillons sont dans les rêves des femmes et les visons. Plus jamais elles ne quitteront les villes comme Zelda pour entrer dans un asile. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin. Tu portais une cape de Zeppelin en écoutant Cachemire de Led Zeppelin.
Zelda, c'était Yves Simon.
La tête au carré, le club sur France Inter.
À New York, les savants américains du Muséum d'Histoire Naturelle procèdent, d'une manière toute moderne, avec aspirateur à l'appui, à la mise à jour d'une momie récemment découverte au Pérou. Entourée de somptueux vêtements de cérémonie, ces macabres restes appartiennent, croit-on, à la personne d'un prêtre péruvien. Mis en terre après une existence qu'il est toujours permis de supposer particulièrement édifiante, il y a près de 3000 ans. Les bandelettes enlevées, les vêtements soigneusement recueillis par parcelles, tout mystère semble devoir s'effacer. Et il reste pourtant le plus étrange, le plus bouleversant, celui de ce corps humain étonnamment conservé.
Et c'était ça l'art des momies justement, hein. C'était la conservation avec à l'instant les actualités françaises de 1949 concernant cette momie péruvienne datée de 3000 ans, Fleur d'Auget. Vous êtes écrivaine et journaliste, éthologue, et vous publiez donc « Qui a peur des momies ?». C'est un livre jeunesse publié chez Actes Sud Junior avec des illustrations de Sébastien Mourin. Comment un jour on a l'idée de faire un livre pour enfants sur les momies? Alors ça vraiment quand même...
Ben justement, j'avais visité une exposition sur les momies à Cap Science à Bordeaux, et où ils présentaient de véritables momies justement, qui étaient très impressionnantes. Et je voyais les enfants qui, eux, étaient plus curieux qu'effrayés.
Ouais.
C'était plutôt les adultes qui se demandaient est-ce que c'est bien moral de présenter des corps humains comme ça, des questions qui peuvent être justifiées d'ailleurs. Les enfants, eux, ils étaient juste étonnés, passionnés, curieux. Et je me suis dit, ouh là, il y a quelque chose à creuser. J'ai d'ailleurs beaucoup appris moi-même lors de ma visite et j'avais envie de creuser encore plus le sujet.
Est-ce que comme nous, vous avez découvert que les momies sont bien antérieures à l'Égypte antique?
Parce que
c'est ça qu'on découvre aussi principalement dans ce livre. Hein.
Oui, parce que quand on parle momies, on pense d'abord avant tout aux momies égyptiennes qui sont très intéressantes et on en parle aussi dans le livre. Mais des momies, il y en a eu sur tous les continents et il y en a eu bien avant les Égyptiens également.
Oui, alors les premières, justement, les toutes premières sont localisées à quel endroit exactement?
Alors ce sont les Chinchorros qui ont 7000 ans et qui étaient... Donc c'est un peuple qui vivait au Chili.
Ouais.
Ce sont les plus anciennes connues. Il y en a peut-être encore d'autres qu'on n'a pas encore découvert. Et en plus, ils avaient des pratiques assez étonnantes et assez macabres aussi. Mais je pense que les enfants sont assez curieux aussi de ces choses-là. C'est pas pour rien qu'Halloween a autant de succès.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ces Chiliens
Chez les Chinchorros, déjà, en plus, tout le monde était momifié. Aussi bien les petits fœtus, par exemple, que les personnes âgées, que tout le monde. Parce qu'on pensait souvent, avant de les découvrir, que c'était surtout des cultures, dans certaines cultures, les personnages de haut rang qui étaient momifiés, pas forcément tout le monde. Chez les Chinchorros, c'était tout le monde. Et donc, ils enlevaient la peau, ils enlevaient les muscles. Ils enlevaient les organes, ils démontaient le squelette, ils se débarrassaient des organes et des muscles, ils faisaient sécher les peaux et les os à l'air sec de l'Atacama. Et ils reconstituaient le corps humain après, qu'ils sculptaient aussi avec de la boue, et on lui mettait aussi un masque.
Incroyable.
Oui.
Donc ça, c'était il y a 7000 ans, a priori.
Il y a vraiment très longtemps.
Les premières datations. Alors, la momie, d'ailleurs, elle est artificielle ou naturelle, parce qu'il y a des cas aussi très célèbres de momification naturelle. Il y a Ötzi, par exemple, l'homme des glaces.
Oui, c'est celle-là.
Donc la glace, c'est un très bon moyen, justement, de momifier.
Oui. Ben, le sable, tout ce qui va assécher le corps humain, le sel, et évidemment la glace. Ötzi, il était retrouvé à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes autrichiennes, ça va aussi créer des momies naturelles où on peut voir encore le visage, les globes oculaires. Ötzi, il avait encore ses globes oculaires, il avait encore la nourriture qu'il avait mangée dans son intestin. Donc là, c'est une mine d'informations pour les scientifiques.
Ouais. Alors les Égyptiens, bon, ils sont quand même très doués en la matière. Hein. Ils ont une maîtrise de la technique assez épatante.
Oui, très 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 poussé. Les Égyptiens, en plus, ils ont momifié des corps humains et animaux pendant 4000 ans. Donc, ils ont eu le temps de s'entraîner.
Ils y sont allés. Hein. Les animaux, vous dites des millions d'animaux. Ouais, 70 millions à peu près d'animaux.
Voilà, on a estimé à 70 millions le nombre d'animaux.
Tout y passait. Hein, les chats, les crocodiles, tout le monde avait droit à sa momie.
Des petits lézards, des poissons, de tout. Les plus gros, les plus petits.
Ouais.
Donc oui, les Égyptiens, ils avaient une technique bien mise au point qui a été testée sur un être humain d'ailleurs dans les années 2000 qui a bien voulu donner son corps à la science.
Il y a eu une annonce, c'est ça qui a été faite.
Ouais, c'est un Britannique, un chauffeur de taxi, Alan Billis, qui a bien voulu, qui était en phase terminale d'une longue maladie, qui a bien voulu donner son corps à la science pour qu'on teste et qu'on soit sûr que effectivement les Égyptiens faisaient bien comme on imaginait. Et ça a été confirmé. Donc la grande cérémonie, c'était plutôt quand même réservée aux personnes de haut rang et aux pharaons. Et donc ça a duré 70 jours. Donc on mettait le corps, déjà on enlevait le cerveau, comme on le sait bien. On laissait le cœur par contre, parce que le cœur c'était le siège de la pensée et des émotions pour les Égyptiens. Le cerveau, ça ne servait pas à grand chose pour eux. Et donc on lui faisait plusieurs bains de natron, etc. Et ça durait vraiment très longtemps. Le bandage.
Le natron, c'est un sel, c'est ça?
Voilà, un sel qui était récolté sur les bords d'un lac.
Ouais, égyptien, en l'occurrence, et qui servait donc très bien à conserver, au fond.
À assécher. Pour faire une momie, en fait, il faut stopper le processus de décomposition, et donc toutes ces bactéries, ces enzymes qui vont auto-digérer le corps, qui vont attirer aussi des insectes. Si on stoppe tout ça, eh bien, on garde la peau, les os, et même les entrailles, parfois. Ouais.
Et ils arrivaient à faire perdre 70% en fait, de la masse du corps.
Oui, 75% de la masse corporelle, donc... Ils devenaient tout secs.
Rien qu'avec ces techniques. Ils avaient des résines aussi, hein, qui leur servaient évidemment abondamment.
Les pauvres, souvent, ils étaient d'ailleurs souvent badigeonnés d'une résine momifiée, un petit peu à la va-vite comme ça.
Alors, vous racontez des drôles d'histoires, en particulier ce qui est arrivé alors, à des moines japonais, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une espèce d'auto-momification, hein, et ces moines, au XIVe siècle, se sont momifiés eux-mêmes. Racontez-nous ça, parce que je trouve ça sidérant ce que vous livrez dans le livre.
C'est assez incroyable, mais ce sont des moines bouddhistes du XIVe siècle au Japon qui, pour atteindre l'illumination, souhaitaient se détacher complètement des souffrances physiques humaines. Et pour cela, ils s'en infligeaient énormément, puisque certains décidaient de s'auto-momifier, et donc de mourir par momification. Et ça pouvait prendre 10 ans. Donc, ils buvaient des tisanes avec une sève toxique d'un arbre qui s'appelait Urushi. Ils s'enfermaient aussi dans un caveau, avec une petite paille pour respirer.
Donc, la fin de leur vie, ils se faisaient emmurer, réellement.
Oui.
Et il y avait juste une paille qui dépassait pour respirer. Et ils avaient une cloche, c'est ça.
Pour dire je suis toujours en vie, je suis toujours en vie. Et ils buvaient de l'eau à l'arsenic aussi. L'arsenic, c'est un poison qui momifie très bien les corps.
Ouais.
Et au bout d'un moment, quand on n'entendait plus cette cloche, on attendait 1000 jours. Et au bout de 1000 jours, on ouvrait la boîte et on avait un moine momifié. Et effectivement, ça marchait très bien. On peut encore voir au Japon ces moines-là aujourd'hui.
Très étonnant, voilà. Mais c'est pour les enfants, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un très chouette album, magnifiquement illustré par Sébastien Mourin. C'est chez Actes Sud Junior. Ça s'appelle Qui a peur des momies, que vous signez Fleur de G. Tout comme vous signez Quel bavard ces animaux. Ça vous rejoignez plus votre travail d'éthologue. Et c'est également chez Actes Sud Junior.
C'est
voilà.
Ça.
Toutes les coordonnées des albums et des livres dont nous avons parlé sont sur le site de La Tête au Carré, comme par exemple L'Étoile Russe chez Jean-Claude Lattès, d'Anne-Marie Revol. Merci beaucoup à tous les trois et très bon week-end.